Donc maintenant, on va laisser la parole à Justine Augustin.
Je suis ravie d'être là et de pouvoir expliquer un peu ce qu'on essaye de faire du côté belge francophone. Je m'excuse par avance pour certains qui connaissent déjà un peu le dispositif parce que j'ai été amenée à en discuter assez dernièrement. Donc voilà. J'espère que ce ne sera pas trop répétitif pour certains d'entre vous. Je me dis que peut-être ce qui est intéressant, c'est d'un tout petit peu brosser la réalité du paysage, disons, belge, qui est quand même assez atypique et très différent du paysage français pour plusieurs raisons. D'abord, chez nous, la culture, elle est communautarisée. Vous savez qu'on parle plusieurs langues en Belgique. En tout cas, au niveau de la culture, le pays, il est vraiment coupé en deux entre le nord qui parle le flamand et le sud qui parle le français et puis Bruxelles qui est une vraie zone bilingue. Et ça entraîne que la culture est aussi coupée en deux et qu'on a des centres du cinéma qui sont coupés en deux aussi. Ce qui fait qu'on a des budgets qui sont assez restreints et qu'on est aussi attaché finalement à soutenir des créateurs, j'allais dire d'une région, presque plus que d'un pays finalement, carrément en fait, d'une région, ou en tout cas liée à la langue qu'on parle. Mais je pense que c'est intéressant d'en tenir compte aussi sur une des tables rondes sur le soutien en région, parce que finalement nous on se retrouve dans une réalité où on soutient des artistes de notre région plus que d'un pays. Et donc un lien avec les créateurs qui est assez fort, j'ai l'impression, et qu'on essaye de cultiver très fort au niveau du Centre du cinéma et de l'audiovisuel, qui est donc l'organe qui dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone du pays, dans lequel il y a le dispositif qui met en place toutes les aides à la création pour le cinéma, notamment, pas que, évidemment, et pour lequel donc je travaille. Pour vous resituer un peu comment est né cet appel à projet production légère. Donc en Belgique, on a un dispositif qui est très installé, qui est là depuis une cinquantaine d'années, un peu plus, qui s'appelle la Commission Cinéma, sans grande surprise ni originalité, et qui en fait est à peu près l'avant sur recette du CNC, et fait à peu près, offre le même type de soutien avec bien moins de budget, on ne va pas se mentir. Mais donc on a constaté le premier appel il a été lancé en 2017, mais ça faisait un moment qu'il y avait une sorte de double constat qui était adressé. Le premier, c'était que les premiers longs métrages mettaient un temps extrêmement lent à être effectivement finalisé. Donc même les films qui parvenaient à avoir un soutien au sein de la commission cinéma, et déjà c'est pas facile, au fait, la réalité à nouveau de la Belgique fait qu'il fallait systématiquement passer par des dynamiques de coproduction, très souvent avec la France, pas que, ce qui entraînait un chemin extrêmement long pour les producteurs, les créateurs, pour réussir à rassembler les financements, ce qui entraînait aussi souvent une foule de réécritures en fonction des différentes typologies envisagées, ce qui faisait qu'au final, quand les films existaient, de un, ça avait été, j'allais dire, un chemin de croix pour réussir à rassembler les financements, avec des créateurs, et quand je dis créateurs, en fait, j'englobe les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs, mais aussi les techniciens, en fait, qui étaient attachés au projet, qui attendaient hyper longtemps et puis qui, parfois, s'épuisaient véritablement, ce faisant. Et puis, avec des films qui, parfois, n'étaient peut-être pas à la hauteur, finalement, des attentes des créateurs, ou en tout cas, des attentes initiales, parce que, voilà, ils s'étaient un peu épuisés dans ce chemin-là. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième, c'était aussi qu'il y avait des gens qui ne parvenaient pas à obtenir des soutiens de la part de la commission cinéma parce qu'ils avaient un travail de création cinématographique qui ne rentrait pas dans la case, sacro-sainte case, sans aucun jugement de valeur, mais du scénario, de la continuité dialoguée, et qui avait des pratiques de travail différentes, soit par du traitement, soit par du travail de plateau, peu importe en fait, mais qui du coup essayaient un peu artificiellement de se plier à l'exercice du scénario, et en fait ça ne marchait pas. Or, on connaissait leur travail en court-métrage ou dans des œuvres qu'ils faisaient de façon autoproduite, et il y avait une vraie envie de les soutenir, en fait. Mais on voyait bien que par ce chemin de la commission cinéma, ça ne fonctionnait pas. Et donc, en 2017, il nous restait un peu de budget non dépensé, à savoir 400 000 euros. Et là, la directrice générale du Centre du cinéma a proposé à la ministre qui a accepté, alléluia, et aux associations professionnelles de lancer cet appel à projet production légère. Donc c'est un appel à projet qui est lancé qu'une fois par an, contrairement à la commission cinéma qui a, où il y a 3 dépôts par an, voilà, qui a un système un peu plus, disons, installé. Et l'idée, c'était de proposer une aide. Alors quand ça a été lancé, c'était 100 000 euros. Pour faire du long métrage de fiction en prise de vue réelle, donc pas d'animation. Et l'idée, au départ, c'était de n'ouvrir qu'au premier long métrage de fiction, avec pour les films qui étaient lauréats, le fait de devoir faire leur film dans les 24 mois suivant la notification de l'aide. Donc vraiment obliger, entre guillemets, les gens à s'inscrire dans un chemin créatif. Disons dans une grande rapidité, justement pour éviter tout ce phénomène d'épuisement que j'évoquais plus tôt, avec l'idée d'essayer de rassembler des financements quasi exclusivement en Belgique francophone. Donc en gros, aller chercher le fonds régional si c'était possible, un peu de tax shelter, un peu d'aide de diffuseur, éventuellement partir sur une coproduction, mais plutôt en allant chercher des aides régionales qui étaient possibles d'obtenir plus rapidement que voilà, des CNC, des choses comme ça. Et donc avoir des budgets effectivement qui oscillent entre 200 et un peu exception, on est allé jusqu'à 500 000 euros, mais ça c'est plutôt dans les années qui ont suivi. Donc ça, c'était un peu pour essayer de pallier à ce phénomène d'épuisement que j'évoquais tout à l'heure. L'autre idée, c'est que pour candidater à cet appel, il faut remettre uniquement un synopsis de 5 pages. Et on ne vous demandera jamais rien de plus. Donc l'idée, c'est vraiment de venir avec une proposition, un concept, j'allais dire, quasi, et évidemment, alors, des notes d'intention, des choses comme ça, mais de ne pas devoir passer par cette étape du scénario. Cet appel à projet, c'est le seul endroit où on s'autorise à faire une présélection sur dossier. Il faut savoir que chez nous, en Belgique, on reçoit tout le monde en audition. Ça fait beaucoup de monde, mais tout projet recevable à la commission cinéma passe en audition. À l'appel à projet, on fait une présélection qui s'organise avec une partie des membres du jury et qui s'attache spécifiquement à observer les projets déposés sous l'angle plutôt de la production. Je m'explique, c'est que, évidemment, l'objet de cet appel à projet, et c'est ce que Ariane disait tout à l'heure, ça n'est évidemment pas de faire des films classiques, avec des guillemets, et d'essayer de les faire rentrer aux chausse-pieds dans une économie légère. Ça n'aurait absolument pas de sens. L'idée, c'est de soutenir des projets qui réfléchissent dès l'étape du concept à cette idée de production légère. Qu'est-ce que c'est, en fait, une production légère? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, souvent, on dit bah, c'est peu de comédiens, c'est peu de décors, c'est souvent une unité de temps. Ça va être un travail avec une philosophie de travail avec les équipes techniques aussi, très spécifiques. Et donc, cette présélection, elle est vraiment faite pour s'assurer, ou en tout cas essayer, parce qu'on reste un guichet financier, et donc on essaye d'être le plus bienveillant sur ces questions-là, mais voilà, on fait ce qu'on peut, je dirais, vu que c'est quand même les étapes assez antérieures d'un développement de projet. Mais voilà, si on a des projets, c'est déjà arrivé avec des courses-poursuites sur l'autoroute filmées par un hélicoptère, bon, ça peut être super, mais a priori, ça ne va pas être une production légère. Et donc, avec cette présélection-là, on essaye de se focaliser sur les projets qui, effectivement, semble réaliste dans cette économie spécifique. Et puis, dans un deuxième temps, les projets présélectionnés rencontrent les membres du jury. Et c'est une étape qui est vraiment très importante parce que, justement, comme c'est un synopsis de 5 pages et juste une note d'intention, mais c'est important de pouvoir donner la parole aux équipes créatives, qu'elles puissent s'exprimer largement sur ce qu'elles ont envie de faire et comment elles ont envie de le faire, vu que tout le chemin créatif qui va être à l'œuvre est extrêmement important aussi pour ce type de film spécifiquement. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc oui, comme je le disais, les projets doivent quand même être déposés par un producteur qui ne doit pas forcément être constitué en société commerciale. Ça peut être une ASBL, ce qu'on appelle donc une association sans but lucratif. Ça permet d'avoir aussi des collectifs qui parfois déposent avec des gens qui parfois ont la casquette de producteur, une autre fois ont la casquette de réalisateur par exemple. Donc disons même des collaborations de travail qui sont différentes que ce qu'on a l'habitude de voir, il me semble. L'aide proposée, c'est une subvention, c'est pas une avance sur recette. Donc il n'y a pas non plus cette pression. Alors en Belgique, on va pas se mentir, on a rarement des recettes sur les films qui sont soutenus, mais tout de même. L'idée aussi, c'est que les films qui sont soutenus dans ce cadre ne doivent pas obligatoirement sortir en salle. Donc à nouveau, si je fais la comparaison avec notre dispositif de commission cinéma, il y a une obligation d'avoir des films qui vont, qui se destinent et qui devront sortir en salle. Là, on a pris le parti d'ouvrir le champ et d'essayer de pousser aussi, dès l'étape de la remise de dossier, les gens à réfléchir à des diffusions alternatives éventuellement. Ou en tout cas, à réfléchir en fonction de la nature même du projet, à comment le film pourrait toucher au mieux son public. J'ai un exemple en tête, par exemple, d'un film qui est en cours de post-production actuellement, qui s'appelle, alors qui a changé de nom, il s'appelait Fanfan et Mathilde à l'époque, et c'était des créateurs qui venaient de l'univers du cirque et qui ont la volonté de faire circuler, alors on verra si c'est faisable, mais de montrer le film dans un chapiteau de cirque itinérant. Ça, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi simplement, en fait, assumer dès le départ que le film, il a vocation à circuler sur des plateformes et pas à sortir en salle. Et ça, c'est OK pour nous. L'idée, c'est d'avoir une réflexion aussi sur la diffusion dès des étapes assez précoces de développement du projet pour essayer d'aller toucher un public spécifique qui sera en accord avec, avec le projet lui-même. Et il y a un soin aussi particulier qui est apporté à la constitution des jurys. Donc ce ne sont pas les membres de commissions de cinéma, c'est des gens qu'on va chercher chaque année et qu'on essaye de trouver avec un regard, disons, bienveillant mais pertinent sur cette question de la production légère. Alors évidemment, les premières années, on n'avait pas des gens qui avaient déjà été confrontés à ce cadre de production spécifique. Chemin faisant, maintenant, on a quelques producteurs, quelques auteurs qui voilà, ont pu tester ce genre de dispositif et qui ont du coup un regard très précis sur qu'est-ce que c'est de faire de la production légère. Et donc, on va chercher ces personnes-là pour qu'ils puissent eux-mêmes aller chercher les films qui vont peut-être le mieux trouver leur place dans ce dispositif spécifique. Alors, au fil des années, le cadre, on a essayé de faire un peu bouger le cadre en étant très fort à l'écoute de la réalité de travail, de ce que c'était de faire de la production légère. On a des rendez-vous tous les deux mois avec les associations professionnelles et c'est souvent un sujet qui a été évoqué. On n'est pas toujours chérie, je dirais, notamment par les producteurs qui rappellent souvent la difficulté, on ne va pas se mentir, que c'est de produire un film dans ce cadre-là. Ce qui fait qu'au fil des années, on a aussi essayé de faire évoluer le dispositif pour qu'il reste quand même, qu'il reste dans cette énergie de ce qu'on avait essayé de lancer initialement, mais qu'en même temps, il reste en accord avec les réalités et les préoccupations des professionnels. Je pense que c'est Ariane aussi qui l'évoquait tout à l'heure, pousser les professionnels à travailler en n'étant pas rémunérés, ce n'est pas du tout l'objectif, évidemment. Donc, on essaie d'adapter le dispositif chemin faisant, ce qui fait très simplement que l'aide a augmenté petit à petit au fil des années. Donc, de 100 000, on est passé à 125 000 en 2021. Et puis, en 2024, depuis 2024, on est à 150 000 euros. Ce qui déjà très facilement, par un effet de levier, fait que les producteurs peuvent lever plus de tax shelter et donc que déjà assez rapidement, ça gonfle un petit peu l'enveloppe, disons, budgétaire disponible. Un autre élément qui a, je dirais, varié au fil du temps et des années, c'est qu'on a, à partir de 2019, on a ouvert l'appel au second et suivant film également. On avait eu des demandes de la part de cinéastes qui avaient déjà à leur actif un premier film de fiction, de pouvoir tester ce dispositif spécifique et de pouvoir essayer de eux aussi expérimenter, disons, ce chemin un peu parallèle de production et de réalisation. Ça a donné des super films comme Chienne de vie, notamment. Enfin, il y a quelques exemples. Ceci étant, depuis 2024, on a resserré sur le premier long métrage et peut-être qu'on pourra en discuter plus en atelier. Mais on a quand même été souvent interpellé sur le fait que ça reste des conditions de travail particulières et que c'était peut-être aussi à envisager comme une espèce de plateforme de lancement pour de jeunes créateurs au sens large, techniciens, etc. Et qu'une fois que les gens avaient pu expérimenter ce type de dispositif une fois dans leur vie, ils n'avaient pas forcément l'envie de le refaire parce que ça demandait un investissement personnel qui était assez conséquent. Et donc, on a resserré sur le premier long métrage depuis l'année dernière. Voilà, après on évalue, on a la chance pour le moment encore d'avoir une assez grande souplesse sur le fait de pouvoir faire bouger ce cadre, et on essaie de le défendre bec et ongles, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on puisse réagir assez facilement sur comment ce dispositif aide, évolue, pour pouvoir être au plus juste vraiment des préoccupations des professionnels qui sont intéressés par ce cadre spécifique de production. Je dirais que donc là, c'est assez symbolique, mais on lance aujourd'hui l'appel pour le 9e appel pour la production légère en 2025, et je le vis comme une petite réussite personnelle, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Belgique, la politique n'est pas franchement attentive à la culture, on va le dire comme ça. Et donc, voilà, c'était devenu un dispositif qui était peut-être un peu fragile. Donc, on est ravis de pouvoir le lancer à nouveau cette année, et on espère pouvoir le faire encore les années à venir. Et donc, ce que j'avais envie de faire, peut-être, c'est simplement de vous montrer quelques affiches de films qui ont été aidées dans le cadre de ce dispositif ces dernières années, parce que ça donne... Ça donne une idée aussi de la diversité des films qui ont été soutenus. Et ça, c'est un élément qui me tient particulièrement à cœur. Et bah, je dis moi, mais enfin, c'est aussi tous mes collègues qui m'accompagnent au Centre du cinéma. C'est qu'on a constaté qu'en fait, avec cet appel à projet, on rencontrait des profils de cinéastes et de créateurs, en fait, qu'on n'avait jamais vus à la commission cinéma. Des gens qui ont des pratiques différentes, mais aussi des gens qui ont des parcours professionnels, disons, très très différents. Des gens qui, en fait, n'osaient même pas venir déposer un dossier, qui avaient beaucoup de mal à comprendre comment on fonctionnait et qui ne se sentaient, en fait, pas légitimes à venir chercher une aide au Centre du cinéma, et qui, par ce biais-là, ont osé, sont venus et ont été soutenus, et ont pu, en fait, avec cette aide-là, faire un premier long-métrage de fiction, montrer ce que c'était leur cinéma, et leur ont permis, dans un deuxième temps, en fait, d'aller chercher des aides plus conséquentes dans des dispositifs plus installés. Et donc ça, c'est vraiment une vraie joie pour nous aussi, et c'est un des objectifs, en fait, qui s'est tissé en chemin. Et c'est vrai qu'en 2021, la ministre de l'époque avait lancé un plan diversité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, on avait réussi à négocier avec elle qu'elle nous donne plus de sous pour cet appel à projet-là aussi. Donc on était passé de 400 à 600 000 euros, grosso modo, parce que on avait bien repéré que c'était vraiment un endroit où il y avait des créateurs d'horizons extrêmement diversifiés, et qui aussi apportaient des voix très diversifiées qu'on n'avait jamais vues, et qui touchaient un public diversifié. Donc pareil, en fait, d'une certaine manière, si on est un peu opportuniste, nous, en tant que Centre du cinéma, ça coche un peu toutes les cases, parce qu'on est très heureux d'avoir des profils différents, et aussi de s'apercevoir qu'il y a des publics différents qui sont touchés. Je pense que c'est une des missions du Centre du cinéma, en tant que service public aussi, en fait, de rencontrer les attentes du secteur au sens large, et puis de rencontrer les attentes d'un public qui est plus large. Et donc, ben, je trouve que simplement, en fait, bon, bah, je ne sais pas si vous avez vu ces films, mais si on compare ces trois films-là qui étaient des lauréats de la première année en 2017, bah, on est sur des typologies de films extrêmement différents, et avec des films aussi qui voyagent de façon très très diversifiée. Fils de Plouc se retrouve à Sundance, et Une vie démente, Djoua va au FESPACO où il gagne un prix. Et Une vie démente remporte une foule de Magritte, qui est l'équivalent de nos Césars, devant les films de production classique, entre guillemets. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi qu'en vérité, la profession elle-même, je pense, valide et s'en fiche, entre guillemets, un peu du cadre de production, voit le film fini, et les qualités du film peu importe le chemin de production. Alors, Loser Revolution, ça... vous voyez aussi, on se fait souvent, alors je ne sais pas comment c'est au CNC, mais souvent on nous dit que c'est impossible de produire de la comédie en Belgique. Il faut savoir que chez nous, il n'y a pas d'argent du marché en Belgique francophone. Il n'y a pas de chaîne puissante qui peut mettre beaucoup d'argent sur la table, ce qui fait qu'en gros, un film qui n'a pas d'argent institutionnel, il ne peut pas exister, ou quasi pas, ou alors en autoproduction, mais dans une réalité de vie qui est très difficile. Et donc, bah, par exemple, Loser Revolution, c'est un film qui est sorti quasi immédiatement en plateforme, sur la plateforme de la RTBF, qui est donc notre chaîne publique, et qui est le film qui reste à ce jour celui qui a le mieux marché sur cette plateforme. Donc, c'est intéressant aussi de voir ça. Alors, on aime ou on n'aime pas ce genre de film, mais en tout cas, c'est un film qui n'aurait pas pu exister à nouveau sans ce dispositif d'aide. Alors, je ne vais pas vous faire un blabla sur toutes les affiches de films, mais voilà, on a du slasher, On a Aya qui, si je ne me trompe, était à l'acide. Est-ce que je dis une bêtise? Oui, voilà. Donc ça, et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que Simon Gillard, c'est quelqu'un qui vient du documentaire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les dispositifs de films qui sont soutenus avec cet appel à projet, c'est qu'on va vraiment avoir des pratiques de cinéma assez hybrides qui empruntent notamment des techniques documentaires. Et c'est typiquement ce que Simon a fait. Il est parti, je pense qu'il est resté 6 mois au Sénégal, si je ne me trompe pas, avec, je pense que c'est lui-même, il est chef opérateur de base, donc c'est lui qui faisait l'image, et je crois qu'il avait juste quelqu'un qui l'aidait au son, et c'est tout. Et donc, on laisse aussi une très grande liberté. Pour tout vous dire, le dossier qui avait été remis, c'était l'histoire d'une motard à Charleroi, et puis ça n'a pas du tout été ça, et on était bien contents parce que je crois que c'était bien mieux cette histoire là voilà, Chienne de vie que j'évoquais tout à l'heure, qui était une sorte de film à sketch, Les enfants perdus, qui est un film plutôt fantastique, Les pas perdus, qui est un film qui a été montré à Flûte, qui a plus véritablement revendiqué son côté télévisuel. Alors il a fait une petite sortie salle, mais il a plutôt circulé dans des festivals comme un unitaire télévisuel, et ce qui était plutôt chouette aussi pour nous, qui se tenait entièrement dans un tribunal, Camping du Lac. on a la chance d'avoir la réalisatrice avec nous, et ça c'est un des films qui a extrêmement bien circulé, notamment en festival, de même que Coup et Voix. Qui a aussi, les deux ont connu leur première à Locarno. Belgian Wave, qui était un faux documentaire, qui lui a plutôt circulé dans des réseaux de festivals de genre. Il pleut dans la maison, qui passe à la semaine de la critique. Ça aussi, c'est un super, super exemple d'un parcours de cinéaste qui vient du documentaire et qui peut s'approprier une narration de fiction tout en gardant ce grand bagage documentaire. Vitrival, qui était à Rotterdam cette année, voilà, eux typiquement, Noël et Baptiste, c'était des gens qui peinaient terriblement à avoir un soutien à la commission du cinéma, et puis qui là ont été soutenus très facilement à l'appel à projet. Et On vous croit, qui était à Berlin cette année et qui a été vendu, je crois, sur plus de 26 territoires, donc qui est vraiment aussi un film qui fonctionne très très bien. Et je pensais tout. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci.
Merci beaucoup. On peut laisser. On a un peu de temps, mais une question, allez-y. Oui,
on a plusieurs minutes.
Ah, on a le temps, ça va ?
Oui, s'il y avait un petit minute au prévu.
Parce qu'il y a quand même. Il faudra laisser la parole à Stéphanie pour présenter le paper.
Ça va. Il y a des micros là.
Si, bonjour, j'ai une petite question technique. Mm-hmm. Vous avez parlé du dispositif production légère et de tax shelter, c'est-à-dire que c'est compatible,
oui.
Et c'est-à-dire que c'est de l'argent public qui génère du crédit d'impôt, grosso modo.
Ben alors, c'est, en fait, en Belgique, on a un peu trois types de fonds de guichets de financement. Au niveau fédéral, donc en tout cas pour l'ensemble du pays, il y a effectivement le tax shelter. Et en fait, à partir du moment où vous avez un producteur inscrit en Belgique et qu'il s'engage à faire des dépenses pour une partie, en tout cas, sur le territoire, vous pouvez solliciter du tax shelter, et c'est quasi une aide automatique, en fait. C'est assez facile. À partir du moment où vous avez un intermédiaire, vous pouvez lever du tax shelter assez facilement. Ça, c'est un dispositif. Après, vous avez les fonds culturels comme nous. Et donc, c'est indépendant, en fait, l'un de l'autre. C'est-à-dire que comme nous, les 150 000 euros que vous allez avoir de cet appel à projet, vous devez l'investir dans le territoire local. Vous faites des dépenses de facto, et ces dépenses-là vont aussi pouvoir être mobilisées ce sont des dépenses aussi éligibles pour le tax shelter. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'une même dépense est comme doublement éligible pour les deux fonds. Donc ça va vous permettre aussi d'aller chercher de l'argent au tax shelter. Et puis le troisième niveau, c'est le niveau régional. On a des aides régionales qui sont des aides économiques, en fait, j'imagine un peu comme les fonds régionaux ici, qui eux, malheureusement, sont plus complexe à obtenir parce qu'en fait, bon, la concurrence avec les films français qui viennent être coproduits chez nous est immense, et donc au niveau de la Wallonie, très souvent, il faut faire un volume de dépenses, je pense qu'ils sont à un régime de 300% pour essayer de les obtenir, ce qui n'est pas réaliste dans le cas de la production légère. À Bruxelles, je pense que le focus est davantage porté sur les cinéastes belges, et donc certains films de production légère ont quand même réussi à avoir de l'argent du Fonds régional bruxellois, mais des montants pas très conséquents parce qu'ils ont un ratio qui est plus compliqué. Mais je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Si
du coup.
Un peu, et oui. Je vais préciser encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de financement privé-public.
Non.
Et comment vous faites ça par rapport aux questions en règles européennes?
En fait, on... Si on arrive à être exempt, on arrive à passer sous le régime de l'exemption, ce qui fait qu'en vérité, nos films se font quasi exclusivement sur du fonds public. Ouais.
Ça fait rêver tout le monde.
Merci pour votre présentation. J'ai été surpris et agréablement surpris par l'agilité dont vous parliez, dans le fait de pouvoir modifier le règlement au fil des années, un peu en feedback des retours que vous aviez. C'est souvent un des verrous, un des freins qu'on observe tous, que ce soit en région au CNC, avec des strates, des procédures politiques et administratives, alors même que les chargés de mission savent qu'il y a des manques, ils sont un peu dans une inertie où le dialogue avec les professionnels est compliqué. Comment vous expliquez cette agilité? Qu'est-ce qui...
Alors, en fait, assez simplement, et cette agilité s'accompagne d'une fragilité qui est évidente, c'est qu'au fait, le dispositif, il n'est pas repris dans un texte décrétal. C'est ça, en fait. Alors, je ne connais pas les textes juridiques français, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, à la commission cinéma, quand on doit changer une virgule, ça nous prend 2 ans, effectivement. Donc, c'est très lourd. Là, on a fait le pari, et on a pris le parti de rester sur un dispositif où, en fait, on a un règlement qu'on fait valider par les ministres successives, et ce qui nous permet, en fait, de faire des propositions et d'être jusque-là assez bien entendu. Le revers de la médaille, c'est que, par exemple, cette année, moi, j'ai un peu eu la trouille quand même de me dire est-ce qu'on va permettre de relancer cet appel, parce que justement, ça n'est pas repris dans un texte décrétal, on nous demande de faire des économies, et donc c'est peut-être un de ceux qui va sauter. Après, je pense grâce au succès de ces films qui circulent très bien en festival, qui, lorsqu'ils sortent en salle, rencontrent le public, grâce aussi au fait que, on le voit maintenant, ça permet vraiment à des cinéastes de se lancer. Enfin voilà, je pense que ça remplit un objectif évident. Et jusque-là, le politique l'a entendu. Je vais vous dire la vérité, on surfe aussi un peu sur des articles qui sont écrits ici. On leur dit non, mais vous savez, du côté français, vraiment, ils nous envient ce dispositif, il faut continuer. Et donc, jusque-là, ça a fonctionné. Maintenant, voilà, on espère que ça pourra. En fait, un peu chaque année, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'inscrit justement dans un texte décrétal où on va se figer plus? Est-ce que la nature même de cet appel, c'est pas justement de garder cette agilité? Et c'est toujours un peu un questionnement. Peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus se contenter de se poser la question et qu'il faudra prendre des choix. Jusque-là, on est parvenu à garder cette agilité. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on s'en sort. Et c'est aussi que, voilà, moi, je travaille aussi pour la commission cinéma et pour la commission série. La production légère, c'est la seule où je suis toute seule, mais c'est la seule aussi où je peux me permettre d'appeler les gens, d'être vraiment en contact avec le suivi, ce que je n'arrive pas à faire pour les autres projets aidés. Et donc ça aussi, c'est précieux parce que j'essaye d'être vraiment à l'écoute des retours et des réalités des gens de chacun, et pour pouvoir, bon, dans le tout petit cadre qui est le mien, essayer de faire un peu bouger les choses, quoi.
Deuxième volet de ma question, très rapidement, est-ce que vous avez dû aussi faire face à des critiques de l'ordre du minimum syndical ou
bien sûr,
milieu social qui peut être reproché en forme de low cost dans cette
formule-là?
Oui,
évidemment.
Je veux parler de la profession quand elle s'attaque...
Oui.
Typiquement, votre politique de prenant en charge.
Oui. Je pense que ça a pu être mal interprété à un moment donné, effectivement, oui, comment je peux dire, il y a un risque de paupérisation du secteur, et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite faire avec ce type d'aide, loin de là. Mais il faut pas non plus être naïf. Quand on donne 100 000 plutôt que 500 000, forcément que le ratio est différent. C'est pour ça qu'on essaye d'être toujours hyper vigilant à la proposition artistique au regard de ce que ça va effectivement coûter. Mais c'est vrai qu'en chambre de concertation, particulièrement les associations des producteurs et les associations des techniciens du cinéma ont souvent tiré la sonnette d'alarme en disant attention, en fait, il faut être très 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 vigilant. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de de passer de 100 000 à 150 000 au fil des années. Alors, il y a des réunions qui ont eu lieu entre producteurs et associations hors champ, qui est donc les représentants des métiers techniques chez nous, pour essayer de se mettre d'accord sur effectivement le respect de certains barèmes. Après, j'ai quand même la sensation que ces choses se décident au cas par cas en fonction des films à chaque fois, parce qu'on est aussi dans des typologies qui sont si différentes que, il me semble, mais alors je ne suis pas du tout productrice, mais que c'est difficile de faire une sorte de chose transversale pour tous les cas des films. Je voulais dire autre chose et ça m'échappe. Et oui, et par ailleurs, on a quand même vu, et c'est aussi ça qu'on est revenu au premier long métrage, c'est qu'il y a eu pas mal d'initiatives où, de base, les producteurs disaient tout le monde va être payé exactement de la même manière, avec cette logique un peu de collectif comme ça, qui peut, il me semble, fonctionner auprès peut-être de créateurs et de techniciens en début de carrière. C'est peut-être plus difficile, je sais pas, quand vous êtes chef décorateur, ça fait 20 ans que vous faites ce boulot, d'être payé de la même chose que quelqu'un qui débute. Évidemment, je peux entendre que c'est très compliqué. Et donc, c'est aussi les expériences de deuxième et suivant film où parfois ça a été beaucoup plus compliqué pour les équipes techniques. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, en fait, on va revenir au premier long métrage en envisageant ça aussi comme une sorte de rampe de lancement dans la vie professionnelle, sans cautionner de ne pas payer. Le dispositif est aussi soumis au dispositif d'agrément. Il y a aussi des vérifications, évidemment, qui sont faites. On ne balance pas les sous en une tranche et puis voilà, il n'y a plus rien. Donc, on essaye d'être vigilant. Après, à nouveau, on est un guichet financier. On est très peu, donc on n'a pas les moyens, malheureusement, de vérifier ça de A à Z, quoi.
On va prendre une dernière question.
J'avais une question. J'avais une question sur les financements complémentaires, justement. Tu évoquais des aides régionales en Belgique. Est-ce que ça signifie que vous avez engagé une politique de coopération avec ces territoires et qu'eux-mêmes évaluent les projets sur la base de ces 5 pages du synopsis et notre intention, les pièces artistiques à produire auprès du fonds que tu administres? Ou est-ce que les autrices et les auteurs sont contraintes à, pour le coup, envisager, en tout cas dans le domaine de la fiction, un scénario, une continuité dialoguée ?
À ma connaissance, si, ça doit quand même passer par le scénario. Et en fait, je pense que, par exemple, à l'image, qui est le fonds pour la Wallonie, ils le sollicitent, ils le tentent même assez rarement, parce qu'on connaît en fait le fait que la Wallonie est envahie de demandes de films qui font énormément de dépenses, et comme eux, ils disent toujours un peu rigolant qu'ils lisent pas le scénario, en vérité, ce qu'ils regardent, c'est le degré de dépenses qui va être fait sur le territoire. Ça sert quasi à rien d'essayer d'aller chercher ces aides quand on est sur un devis global qui est à 350-400 000 euros. En fait, on sait très bien qu'il n'y a pas assez de dépenses qui est réalisée en concurrence avec des films à 3, 4, 5 millions d'euros qui arrivent et puis qui sont tournés. Enfin, ça, ils savent, je pense, qu'ils sont éjectés quasi immédiatement. Je pense quand même que certains films, et même j'ai un doute en fait, je pense justement que Chienne de Vie, il est parvenu à avoir une aide de Screen Bruxelles, donc qui est le fonds régional bruxellois, mais alors, je ne vais pas dire un montant parce qu'en fait je ne me souviens pas exactement, mais c'était dérisoire. Après, Xavier, lui, dans son chemin de travail, naturellement, il passait par le scénario. Comment ? Je ne pense pas qu'il a dû se forcer de façon artificielle à produire un scénario parce que ça faisait pour lui partie du chemin pour arriver à son film, quoi. Mais oui, non, il n'y a pas de... Alors, c'est vrai qu'on a... J'ai la sensation que, justement, Screen Bruxelles, ils sont vachement attentifs aux productions légères et qu'on en parle beaucoup avec eux. Après, ils sont... on revient toujours à la même chose, face à une réalité budgétaire où ils n'ont vraiment pas beaucoup d'argent. Pour la petite histoire, ça fait un an qu'on n'a pas de gouvernement au niveau de la région bruxelloise parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, les budgets sont figés. Ils sont en affaires courantes depuis un an. Donc là, ils travaillent d'une façon extrêmement compliquée. Et donc, ils font ce qu'ils peuvent en fonction de ce qu'ils reçoivent aussi. Et je pense que c'est vraiment pas... Même si je pense qu'ils aimeraient en soutenir davantage, c'est compliqué pour eux.
Et en aval, pardon, parce que...
Est-ce qu'il y a des aides à la promotion des films?
Oui, bien sûr. Oui. Tous les films belges, majoritaires belges chez nous, d'ailleurs qu'ils aient été soutenus ou pas, peuvent avoir accès à des aides à la promotion, sorties salles, circulation, festival. Oui, tout à fait.
Même s'ils n'ont pas
l'agrément? En vérité, ils ont toujours l'agrément. J'ai pas d'idée en tête. Mais même des films autoproduits qui n'auraient pas eu le soutien soit de la production légère, soit de la commission cinéma, s'ils répondent quand même à un certain cadre, peuvent solliciter des aides et les obtenir chez nous. Ouais.
Vous recevez combien de dossiers par an?
À la production légère, ça aussi entre 25 et... Allez, 20 et 30, en fait, je dirais, oui.
Donc l'atelier 1, on aura Justine voilà. Avec nous, donc on pourra lui poser
et puis,
la pause déjeuner.
Voilà, et n'oubliez pas qu'on a un certain nombre de temps en commun, le déjeuner. Cet après-midi également, on aura une heure qui viendra couper, en fait, le temps d'atelier. On sera à nouveau tous ensemble, et c'est vrai que voilà, dans ces moments, on pourra échanger à nouveau avec Justine. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci pour votre écoute.